Bienvenue à Escale 16-17 avec Fulgence Blas au micro. Aujourd'hui, c'est mercredi 9 novembre 2022. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va parler de voyage avec la globetrotteuse Maud Carrier qui va nous parler d'un road trip en Arizona aux États-Unis. Et à 16h30, je vais recevoir Grace C.B. Byrne, qui est la cofondatrice et directeur général de Yellow Pad Session et de Optimisma, c'est pour nous parler de la compassion, cette deuxième soirée thématique de la série Optimisma. Restez à l'écoute. Alors tout de suite, il y a Maud qui attend.
Oui. Allô, allô.
Bonjour, madame la globetrotteuse.
Bonjour. Vous allez aux États-Unis aujourd'hui?
Oui, je suis jamais allé là en Arizona. Je sais que là-bas, c'est la chaleur. Il fait beau.
Oui, ben exactement. Hein. Donc, l'Arizona, je trouve que c'est une destination parfaite aux États-Unis qu'on connaît pas super bien, mais c'est vraiment idéal pour...
Voilà, c'est où l'Arizona?
Oui, ben l'Arizona, en fait, c'est du côté sud-ouest des États-Unis. Donc, au nord, il y a l'Utah, à l'est, le Nouveau-Mexique, à l'ouest, la Californie, et au sud, on est à la frontière avec le Mexique.
Avec le Mexique,
donc,
oui.
Oui, donc il y a beaucoup d'influence mexicaine, autant dans l'architecture que
c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de latinos là-bas, là.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, on retrouve beaucoup de Mexicains dans cette région-là. Et évidemment, ça se traduit par une architecture particulière qui vient rechercher un peu le côté mexicain, mais aussi des bons plats Tex-Mex.
Alors, comment on s'y rend?
L'Arizona, dans le fond, c'est super simple pour se rendre. Il y a des vols directs depuis Montréal et avec escale depuis Québec vers Phoenix, qui est la capitale de l'État. Les vols coûtent environ entre 500 et 800 $ dépendant de la période de l'année.
À partir de Montréal?
Oui, exactement.
C'est cher quand même. Hein? C'est 800...
Oui, 800 $ Bon, ça dépend parce qu'il y a des périodes de l'année que c'est un petit peu plus cher. On sait comment les vols, ces temps-ci, les prix ont beaucoup remonté. Mm-hmm. Donc, mais il y a quand même très régulièrement là, des spéciaux. Là, donc, soyez à l'affût un petit peu des fois des vols en liquidation là, qui arrivent. Donc, ça arrive qu'il y en a pour l'Arizona, pour Phoenix, qui sont pas trop chers.
Oui, parce qu'avec entre 500 et 800 $ je vais en Europe aller-retour.
Ah, je sais. C'est pour ça qu'on visite moins un peu des fois notre continent, parce qu'il y a des prix en Europe qui sont plus alléchants.
Il y a beaucoup plus de concurrence, voilà. C'est peut-être, oui, ça dure bien. Alors, on va parler maintenant de météo.
Ben oui, parce que bon, hein, quand on s'en va en vacances, en voyage, c'est important, la météo, on aime qu'il fasse beau, et ça donne bien, parce qu'en Arizona, il y a le soleil qui brille près de 300 jours par année, et le temps est quand même très sec, hein. On est dans un climat un petit peu plus désertique, donc
je te reprends, il y a du soleil presque 300 jours par année.
Oui, c'est ça, donc le soleil est presque garanti, là, quand on va là-bas, c'est merveilleux.
Je vais mettre ça sur mes prochaines destinations.
Puis bon, il fait pas. Bon, pendant l'hiver, là, si on y va comme à cette période-ci de l'année ou un petit peu plus tard, les journées montent autour de 20-24 degrés, donc c'est pas extrêmement chaud, mais c'est confortable.
C'est confortable, oui.
Là, c'est sûr que la nuit, ça tombe un peu plus frais, là, peut-être autour de 8 ou 9 degrés. Et j'ai été très surprise quand je suis allée en Arizona, qu'il y avait parfois de la neige dans le nord, donc il y a un petit peu plus d'altitude à ce niveau-là.
Oui.
Mais dans le nord de l'État, il y a de la neige parfois.
Il y a de la neige, oui. De neige. Ça, c'est en hauteur, ça.
Oui, plus en hauteur. Mais bon, ça reste que le soleil, dès que le soleil sort, le soleil est très chaud l'hiver comparé à ici. Donc, ça réchauffe bien, c'est parfait pour visiter.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de spécial là-bas en Arizona, Maud?
Il y a plein de choses. Donc, du côté de Phoenix, qui est la capitale, il y a vraiment des beaux terrains de golf. Moi, je suis pas une golfeuse, mais on m'a dit que c'est vraiment des beaux terrains de golf qu'il y a dans le coin. Donc, c'est une destination où on peut juste se rendre et jouer au golf à tous les jours si on le souhaite.
Pour les amoureux du golf.
Oui, exactement. Moi, je joue pas au golf, mais on m'a dit que les terrains étaient vraiment parfaits.
Oui.
Mais on peut aussi aller découvrir l'architecture art déco.
Oui.
Donc, Phoenix a un style architectural vraiment populaire des années 20, là, qui est encore sur certains édifices qui ont très bien été conservés dans la ville. On parle entre autres de la tour Luz qui a été achevée en 1929, qui était alors, à l'époque, la plus haute d'Arizona.
Wow.
Donc, c'était l'Empire State Building de l'Arizona. Des États-Unis à cette époque. Mais il y a plein d'autres édifices comme ça qu'on peut juste se balader en ville et vraiment admirer cette époque architecturale quand même particulière.
Mm-hmm. Et puis, il y
Et
a.
on peut.
Oui.
Oui,
Les tours, oui, on va attaquer maintenant les tours de montgolfières.
ben c'est ça. Si vous allez faire de la montgolfière, c'est une expérience très particulière à faire. C'est possible de le faire à Phoenix à tout moment de l'année, là. Donc, contrairement à ici, bon, l'hiver, il y en a, mais c'est. Il fait plus froid un peu. À Phoenix, on peut le faire au lever du soleil au-dessus du désert de Sonora. Donc, c'est vraiment très particulier. Là, le soleil se lève, puis la montgolfière décolle comme ça. Ils sont au-dessus du désert avec les cactus, les petits animaux qui se promènent très tôt le matin. Puis, une fois la montgolfière atterrit, ben là, c'est l'heure du déjeuner, c'est l'heure du brunch. On sort le petit mousseux.
Oui.
Puis l'expérience coûte 179 $ américains, autour de donc près de 200 quelques dollars canadiens. Donc c'est quand même pas si mal pour une belle façon de découvrir le désert d'une autre façon.
Ouais, pour une belle envol en montgolfière, quoi, hein, tout de montgolfière. Moi, ça c'est une expérience que j'ai pas. Moi, j'ai peur de cet appareil là, je ne sais pas, mais je me suis dit, mais si ça prend feu, comment on fait?
Ah, ben ça, on espère que ça arrive pas. Je pense que c'est pas arrivé très souvent. Il faudrait vérifier les statistiques.
j'ai dit, quand je vois là, quand il tire sur le truc, là, je vois la flamme, là, je dis,
oui.
Ouh, c'est bien
mais
beau.
Donc, là, je peux te proposer quelque chose d'un peu plus tranquille, là.
Oui.
Comme on aime bien manger, là, on peut aller explorer les produits locaux et la gastronomie locale en banlieue de Phoenix, à Mesa.
Là, je t'écoute très bien, là. Toutes mes oreilles sont tendues ici, là. Je t'écoute.
c'est moins dangereux, un
c'est
peu.
C'est moins dangereux, donc, la bouffe.
Donc, la Fresh Foodie Trail, c'est vraiment comme une espèce de tour gastronomique qu'on peut faire soit par soi-même ou avec un tour guidé.
Oui.
Alors, on se rend chez les producteurs d'olives, de pêches, de raisins, d'agrumes. Il y a des petits kiosques en bord de rue comme ça qui offrent de la bouffe barbecue, là, du brisket qui est vraiment savoureux. Alors, on peut passer la journée là, à déguster et à rencontrer les producteurs locaux. C'est vraiment une activité qui est plaisante pour découvrir un peu la gastronomie particulière de la région.
De la région, voilà. Parce que quand on va là-bas, il faut manger local, ça c'est clair. Des produits locaux,
oui.
En gastronomie, ça c'est
clair. L'Arizona, c'est aussi l'état du cactus. On retrouve, à près de 2 heures de Phoenix, près de la ville de Tucson, le Saguaro National Park.
Oui.
C'est un parc où on peut aller se balader en randonnée à travers des cactus. Il y en a là, qui sont vieux de plusieurs centaines d'années. Puis, en allant à ce parc-là, bon, évidemment, il y a le pavillon d'accueil à l'entrée qui est très accessible pour tous. Il y a même une plateforme où on peut, à l'extérieur, là, juste voir l'ampleur du parc qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. Puis on apprend que les racines des cactus sont très courtes parce que, bon, dans le fond, ils sont plantés dans le sable, là, mais ils peuvent mesurer jusqu'à 40 pieds, donc 12 mètres de hauteur. Alors, c'est vraiment un... très intéressant d'aller se promener dans ce parc-là parce que bon, on découvre le cactus qui est emblématique de l'Arizona, là, le Saguaro qu'on prononce, mais ça s'écrit Saguaro.
Oui.
C'est celui là, vraiment qui ressemble à un bonhomme. Là. Donc on dirait un corps avec deux bras. Là. C'est ça le classique cactus de l'Arizona qu'on retrouve vraiment juste dans cet état-là, un peu en Californie et un petit peu au Mexique aussi.
Oui.
Donc,
ouais, le nom même, il sonne très mexicain, Saguaro.
Oui, c'est ça.
Oui.
Puis ben, tant qu'à être dans le parc national, tout près, il y a la ville de Tucson où on peut aller se promener. Si on aime l'art de rue qui est très coloré, donc on se promène sur la 4e avenue et on voit de très belles fresques, très belles murales qui ont été peintes à travers les années.
Mais il y a quelque chose que tu as dit là au début avant de parler de Saguaro, des cactus qui ont plus de 100 ans, mais je ne savais pas qu'ils vivaient aussi vieux que ça.
Mm-hmm. C'est vraiment... ben oui, puis les cactus, ça veut dire que je pense qu'ils... ils sont habitués à, c'est ça, c'est des plantes qui sont très habituées à leur milieu, hein, donc sont très adaptées. Alors, s'il n'y a rien pour les déranger, c'est des plantes qui restent là pendant vraiment très, très longtemps.
Ouais, ouais, elles pourraient des pieds de 4 pieds à 12 mètres de hauteur pour 100 ans. Alors là.
C'est très haut. C'est très impressionnant à voir.
Oui, 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 oui. Je te laisse continuer, là. Je te coupe tout la parole.
On s'en va par la suite du côté de Sedona. Donc, on est à 2 heures au nord de Phoenix.
Oh.
Et là, on tombe dans un tout autre paysage. Là. On est entouré de buttes et de montagnes rocheuses, vraiment de couleur.
Ça, c'est les images. Ça, c'est les images que je connais de l'Arizona, ça. Ouais.
Oui, c'est ça. Puis de l'État au nord aussi, l'Utah. Donc, on dirait que ça se prolonge un petit peu dans cette région-là. Donc, c'est vraiment des parois escarpées, des forêts de pins. Puis on se retrouve là, au cœur de Sedona, dans avec des magasins New Age, des spas, des galeries. Ce qui est intéressant à faire dans ce cas-là, c'est bon de soit se balader à pied ou en quatre roues.
Oui.
Mais il y a aussi des tours de Jeep qui sont offerts. Donc, si on n'est pas capable de faire de la randonnée là, pendant des heures pour explorer, on peut simplement faire un tour de Jeep. Mais je vous avertis, c'est quand même quelque chose. Ça brasse beaucoup à bord, mais au moins, ça permet d'aller se promener, d'aller explorer là, ces montagnes-là un petit peu plus loin.
Wow.
Mais aussi, Chedona aussi, c'est quand même très particulier, et ça, je ne savais pas avant d'y aller, il y a des vortex spirituels dans Chedona. Donc, la ville est connue pour ses propriétés très ésotériques grâce à ces fameux vortex magnétiques qui se retrouvent un peu partout autour de la ville et même dans la ville. Donc, il y a des tours guidés qui peuvent nous amener dans ces vortex. Et là, on se tient la main et on essaie de ressentir l'énergie qui est dégagée par cette espèce de magnétisme naturel-là. Ça aurait supposément des effets positifs, des bons effets sur notre corps et notre esprit.
Alors, les amoureux de l'ésotérisme, n'hésitez pas, si vous faites un petit saut là-bas, c'est juste à 2 heures de route au nord de Phoenix.
Voilà. Mais on continue vers le nord pour découvrir le fameux Grand Canyon. Moi, j'avais toujours eu l'impression que le Grand Canyon, bon, j'ai tellement vu dans les films, hein, dans les représentations IMAX en trois dimensions et tout ça. Oui. Une fois arrivé, je serais comme, bon, c'est joli, mais l'immensité de l'endroit est difficile à décrire. C'est impressionnant.
Wow.
Donc, du côté de l'Arizona, c'est l'entrée sud au parc, hein, parce que le parc, évidemment, croise de plusieurs États aux États-Unis. Mmh. L'accès est vraiment très facile. J'ai été très impressionnée parce que c'est accessible à tout le monde. Il y a des larges trottoirs qui longent le haut canyon. Il y a plusieurs stationnements. Puis on peut marcher ou même, justement, si on est en chaise roulante, on peut rouler là, jusqu'aux abords du canyon.
Okay.
Avec des petites barrières qui sont là pour qu'on puisse admirer cette immense devant nous. Et bon, pour les plus aventureux, bien évidemment, on peut partir en randonnée dans le canyon, mais on peut aussi faire un tour d'hélicoptère ou même sauter en parachute au-dessus du canyon, chose que j'ai essayé.
Sauter en parachute?
Oui, on se lance.
Tu as déjà vécu cette expérience?
Ça, toi? Oui, je l'ai fait. C'est quelque chose.
T'as pas peur de la hauteur, toi?
Mais en parachute, on ressent pas tant la hauteur. On est tellement haut dans les airs qu'on ressent pas cette hauteur-là. Donc, évidemment, faut je l'ai fait en tandem, mais c'est pas moi qui s'est lancé.
Ah, bon,
en bas de l'avion. J'étais attachée à quelqu'un d'autre. Donc...
Oh, d'accord, avec un spécialiste. Ah, non.
Oui, j'aurais pas fait ça toute seule quand même.
Maud, moi, en avion, j'ai pas peur. Quelle que soit la hauteur que l'avion prend, j'ai pas peur. Mais me retrouver au sommet d'un immeuble de combien, 50 étages, ou bien, et puis regarder en bas, ou bien quelque chose comme ça, c'est des choses qui m'ont toujours fait, je ne sais pas, ça j'ai une phobie de hauteur.
C'est quelque chose, faut l'essayer une fois pour comprendre la sensation que ça fait.
J'espère que j'aurai le courage de le faire.
Mais je vous le souhaite. Pour les moins téméraires, je vous ramène un petit peu entre Sedona et le Grand Canyon à Flagstaff, qui est un autre endroit extraordinaire qui a fait, à vrai dire, et la ville où la route 66, la fameuse route mythique qui traverse les États-Unis, passe. Donc, on peut dire qu'on a passé sur un bout de la route 66 en allant à Flagstaff. Il y a aussi beaucoup d'art de rue, des bons petits restaurants. Et si on fait du ski, hein, puis que bon, on s'ennuie de faire du ski pendant qu'on est en Arizona, mais il y a le Snowball Resort qui est situé sur le plus haut sommet d'Arizona, qui est une station de ski à 2106 mètres d'altitude. Alors, il y a des belles pistes qu'on peut dévaler, même en peu importe la saison, il y a toujours un petit peu de neige au sommet.
Ah oui, c'est pas de la neige artificielle, hein, c'est naturel.
Probablement un petit peu d'artificiel aussi, comme ici, donc, mais techniquement, là, c'est vraiment de la neige pendant l'hiver en Arizona.
Oui, à 2000 mètres.
Montagne-là.
Oui, même en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, le sommet le plus haut du pays, c'est 3000 mètres. Au sommet, là-bas, il y a de la neige.
C'est ça, on pense pas toujours retrouver de la neige, mais...
Dans les pays tropicaux,
il y a de la neige. C'est possible.
Mmh. Ouais.
Et là, je termine avec juste... quelques petites informations en vrac là, sur l'Arizona.
Oui.
Parce que faire un road trip en Arizona, je vous le dis, c'est hyper facile. Les routes aux États-Unis sont impeccables. C'est super bien indiqué. Et c'est vraiment facile de se déplacer d'un endroit à l'autre.
Oui.
Il y a évidemment aussi un grand centre de location de voitures là, directement à l'aéroport de Phoenix pour prendre une voiture pour un road trip.
Mm-hmm.
Puis, je m'attendais, moi, quand j'étais allée, à peut-être une vibe un peu plus Texas. Hein, on est quand même... du Texas aux États-Unis, mais là, on est vraiment plus dans un style californien. Donc, les gens sont très ouverts, un peu hippies, mais très véganisme, un peu très produits locaux. Donc, c'est vraiment super intéressant. Les gens sont très gentils là-bas. Mmh. Et au niveau des coûts, ben ça dépend toujours des activités, des hébergements que vous choisissez. Moi, j'ai essayé des chaînes d'hôtels, des Airbnb, des bed and breakfast aussi. Donc, il y en a vraiment un petit peu pour tous les budgets. Puis, comme je vous disais, les activités plein air, hein, ben il y en a pour les plus téméraires. Puis, il y a des trucs un peu plus relax à faire selon votre envie.
Ah oui? OK.
Puis une chose intéressante aussi que je ne connaissais pas sur l'Arizona, c'est la nation Navajo. C'est des Autochtones qui habitent le plus grand pourcentage d'Amérindiens aux États-Unis se retrouvent en Arizona. Alors, quand on circule dans l'État, oui, on traverse cette réserve autochtone qui prend une grande partie de l'État. Il y a une forte influence, justement, des communautés dans l'art et la culture arizonienne.
Arizonienne, oui, parce qu'ils sont... OK, puisque c'est la plus grande réserve, le plus grand pourcentage d'Amérindiens.
C'est ça, le plus grand pourcentage.
Ouais, d'Autochtones aux États-Unis, quoi. Voilà.
Et dernier petit point intéressant sur l'Arizona, le baseball. Je ne suis pas très fan de baseball, mais pour ceux qui aiment le baseball, ils doivent le savoir. Là, c'est vraiment à Phoenix qui accueille les camps d'entraînement à chaque année pour la Ligue majeure de baseball, wow, dont les Cubs de Chicago. Donc, c'est possible d'aller voir des parties de baseball quand on est là, des parties de baseball amicales ou des pratiques qui font pendant la saison. Mm-hmm. Alors, rendez-vous à Phoenix ou en Arizona pour découvrir toutes ces belles choses.
Alors, chers auditeurs, auditrices, si vous voulez en savoir plus, allez-y sur MC Globetrotters en un seul mot.com. Vous allez trouver voilà, tout ça là-bas. Merci beaucoup, Maud.
Merci.
Prends soin de toi. Bye bye.
Bye.
I'm coming home. OK, puisqu'on est en plein, voilà, COP 27 en Égypte, quel avenir pour l'agriculture dans les négociations sur le climat. C'est ça aussi, voilà. C'est le dialogue de Coronivia qui accueille depuis 2017 tous les débats internationaux sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique qui se clôt officiellement lors de cette COP 2027 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Donc les négociateurs vont devoir décider aussi à la place à accorder au secteur de la lutte, dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Ça, on verra bien quel genre de décisions qui vont être prises là-bas pour subventionner les agriculteurs, les fermiers, à travers la planète, pas seulement dans certains pays, d'autres sont oubliés, sont délaissés. Donc, à la fois responsables et victimes de la hausse de la température de la planète. Mais ça, l'agriculture peine toujours à trouver sa place d'ailleurs dans les négociations internationales sur la lutte contre le changement climatique. Ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui accusent les éleveurs de bovins, de bœufs et autres, et de vaches, en disant, pour ceux qui suivent l'émission Escale 16-17, j'en avais parlé ici la semaine dernière, il y a la première ministre d'Australie qui veut imposer des taxes aux fermiers, oui, non pas d'Australie, de Nouvelle-Zélande, qui veut imposer des taxes aux fermiers pour, je ne sais quoi, pour les pets des animaux. Ah, il faut le dire. C'est un chat, il faut l'appeler par son nom. C'est comme ça. Voilà, alors là, on se dit, mais les gens, ils vont se dire, mais si c'est comme ça, si on va être taxé maintenant parce que nos animaux sont l'une des causes de ce changement climatique, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Donc, il va falloir venir en aide à ces gens qui n'auront plus envie, leurs descendants ne pourront plus avoir le courage ou bien l'envie de prendre l'héritage. Vous dites, j'ai pas envie, moi, de continuer ce que papa a fait, parce que ce que la famille a fait, pour ne pas être poursuivi par le gouvernement qui veut, d'un côté, réduire sa capacité et autres, alors que le changement climatique, c'est pas seulement dû aux animaux, c'est dû à beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc, au cours des jours qui vont suivre d'ailleurs, au sein de la COP 27 qui se passe actuellement en Égypte, les États devront décider du sort du dialogue de Coronivia, instauré en 2017 à Bonn en Allemagne, lors de la COP 23, présidée par les Fidji. Coronivia, qui est une herbe tropicale, est le nom d'un centre de recherche agronomique des îles Fidji. Voilà. Si vous voulez savoir où se trouvent les îles Fidji, tapez sur Google, vous allez trouver ça. C'est facile à trouver, quoi. Le sujet, c'était est-ce que c'était jugé suffisamment important pour justifier la création d'un organisme ou bien d'un organe spécifique chargé de renforcer l'accord pour une agriculture plus résiliente et pour favoriser aussi les transferts des technologies et les compétences entre le Nord et le Sud. C'est ça aussi la question qui se pose, il faut se le dire. Mais, il faut rester sous la coupelle de groupes techniques de la Convention sur le climat déjà existant, comme l'organe subsidiaire de conseil scientifique technologique SBSTA. Ou bien il faut rester au sein de la discussion informelle entre États, c'est des questions qui se posent. Je pense bien qu'ils vont être en mesure de trouver une solution pour ne pas que tous les fermiers de la terre, tous les agriculteurs soient découragés, sinon on ne pourra plus manger. Au fait, c'est eux qui nous nourrissent, c'est eux qui nourrissent toute la planète entière, quel que soit le pays, quelle que soit la région du monde entier. Donc parler d'agriculture au sein de la Convention climat n'est jamais allé de soi, c'est cité dans le texte adopté d'ailleurs lors du sommet de la terre de Rio en 92. Le secteur n'a vraiment été intégré qu'aux négociations qu'au début des années 2010. Ah, tu vois, c'est au début, quand les scientifiques parlaient de changement climatique, les gens riaient, quoi. Et qu'est-ce que c'est que ça? Quel changement climatique? Réchauffement? On va avoir des problèmes, les gens n'ont pas. Si les gens avaient réagi, je parle des gens, je parle des entreprises, je parle des messieurs en cravate dans les grandes tours, je parle des entreprises qui polluent sciemment, quoi, voilà. Parce que c'est l'économie avant le climat, avant l'écosystème. C'est ça le problème. Oui, c'est ça. Donc, dans la décennie de 90, d'ailleurs, jusqu'au milieu des années 2000, le sujet agricole disparaît derrière les questions des réductions des émissions de gaz à effet de serre par les énergies renouvelables et les transformations de l'économie. Ouais. Il y a un rapport en 2006 de la FAO qui révèle que l'élevage pèse 14% des émissions globales de gaz à effet de serre. 14%. Si on me disait 50%, là, j'allais dire wow. Mais 14%, c'est assez, il faut le dire. Hein. Notamment de méthane. Bon, on s'aperçoit alors qu'il y a un vrai sujet, d'autant qu'il apparaît que la hausse des températures va avoir un impact sur la production alimentaire. Ça, c'est clair. La sécheresse. Là, il ne faut pas, se voiler la face. Voilà. Je comprends que la nouvelle génération, dans la nouvelle génération, il y a beaucoup d'éco-anxieux. D'éco-anxieux. Oui, ils ont peur de leur avenir. Et pas seulement eux, il y a des adultes qui le sont aussi. Donc la recherche va se mobiliser sur la question et les publications vont se multiplier au fur et à mesure qu'on avance. Il y a des chiffres qui sont produits à 6 sujets majeurs où l'agriculture et le climat sont intimement liés. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Et je pense que je vais revenir tout le temps là-dessus, pas seulement durant les 2 semaines en Égypte, mais c'est l'une de nos sujets de prédilection ici. C'est les ondes de Canal M à escale 16-17, bien sûr. Et on sait qu'à partir de 2011, l'Europe et l'Afrique se sont démenés pour faire monter le sujet dans les instances. Les Africains disent, non, c'est vous qui polluez, c'est vous qui devez tout payer. Là, voilà, c'est comme ça. C'est vous qui polluez, vous avez pollué pour vous développer avec le charbon, tout ça, avec vos tubes nucléaires. Oui, pas mal de choses qui se sont passées entre eux. Donc, il y a 6 années ont été nécessaires pour identifier ces sujets devant structurer les échanges. Le rôle des sols dans la captation du carbone, l'élevage et ses émissions de méthane, la gestion des engrais organiques et chimiques, la ressource en eau. Voilà aussi un problème qu'on néglige actuellement. Plus tard, on va parler de pénurie d'eau dans le monde entier. L'autre, on va dire l'or bleu. Ça va venir. Pour l'instant. Et puis les réfugiés climatiques qui vont se déplacer, où est-ce qu'ils vont partir? Il y a des lieux, il y a des endroits ici sur cette terre qui n'auront plus d'eau à boire. Voilà. En France, on était déjà, le gouvernement français a pris des décisions pour dire à certaines personnes dans certaines régions, c'est fini là, arrosez vos gazons ou bien quoi. Aux États-Unis même aussi, ça s'est passé. Et il y avait des gens qui passaient pour contrôler dans les rues s'il n'y avait pas d'eau qui coulait après avoir arrosé leur voisin, le jardin de le gazon de jardin. C'est fini, ça va finir tout ça. Les piscines privées, ça va finir à un moment donné. Sinon, on n'aura plus d'eau à boire. Pense à la légère. Restez à l'écoute. Je reviendrai là-dessus, de temps en temps, quand le temps me le permet, pour que c'est une manière de dire, il faut en parler, pour que chacun de nous puisse prendre conscience. Oui. Après la petite pause publicitaire, je vous reviendrai avec mon invité, Grace Bayburn, pour nous parler de la compassion. Deuxième soirée thématique de la série d'Optimista. Elle est la cofondatrice, directrice générale de Yellow Pass Session et d'Optimista. Allez, à tout de suite après la petite pause publicitaire.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie de l'émission, la dernière. Mon invité est déjà prête pour nous parler de cette deuxième édition, cette deuxième soirée thématique de la série d'Optimiste. D'Optimista, c'est bien ça. Si je me trompe, elle va me corriger, Grace. C'est la cofondatrice, directrice générale de Yellow Pass Session et d'Optimista. Voilà. Bonjour, Grace.
Bonjour. Merci de me recevoir, Fulgence. Je suis très heureuse de vous rencontrer.
Moi, je suis très, très, très heureux de vous avoir, que vous avez aussi le temps de venir nous parler de ça. Optimista, c'est, comment dirais-je, ciné-conférence pour de meilleurs lendemains. Waouh. Et cette année, le thème, c'est la compassion. On ne peut pas trouver mieux que ça, non?
Exactement. Vous savez, c'est notre première année avec Optimista. On a eu d'autres projets auparavant.
Oui.
Mais Optimista, c'est en fait 4 soirées. Et chaque soirée a son thème qu'on explore.
Oui, oui. Et cette année, c'est...
Alors au mois d'octobre, on a exploré le thème de courage.
Oui.
À travers la lentille des arts et des artistes.
Oui.
Et le 19 novembre, on aura le thème de compassion.
Oui. Le 19 novembre, c'est la semaine prochaine.
Pour nous, c'est dans 10 jours, on va dire.
Voilà, c'est dans 10 jours. Aujourd'hui, c'est le 9, là, dans 10 jours à peu près. Alors, compassion. Est-ce que vous pensez que les gens manquent de compassion de nos jours? C'est le fait, c'est la raison pour laquelle. Et parce que là, bon, là, j'ai vu là, ce qui s'est passé le 15. Bon, courage, compassion. Et puis ensuite, j'ai vu un mou quelque part là. on va revenir. Ça, c'est pour l'année prochaine. On va parler d'abord de ce thème du 9 novembre, là. Voilà.
Oui, voilà. Alors, vous savez, en fait, Optimista, oui. comme on l'appelle, c'est vraiment, ça a été créé par la pandémie. C'est-à-dire les sentiments qui sont venus de la pandémie.
Ah bon?
C'est une réponse, en fait, des sentiments qu'on a vus à travers nos jeunes enfants, c'est-à-dire on a deux adultes dans leur vingtaine, leurs amis, notre jeune personnel nous-mêmes, nous encontrons plusieurs jeunes personnes aussi avec notre équipe.
Oui.
Alors, c'est des sentiments qu'on a vus à travers ce groupe-là.
Mmh.
Et pas juste ce groupe, évidemment. I mean, c'est sûr que tout le monde ici, on a tous vécu des moments de peut-être désespoir, de la solitude et surtout de l'impuissance, vous savez. Alors, on se dit, ben comme équipe artistique à but non lucratif, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire des changements? Notre mission est vraiment de regarder l'art à travers l'art, le changement social, si vous voulez.
Oui.
Alors, c'est ça. Alors, on a créé ce qu'on appelle une ciné-conférence. Ça consiste de 4 soirées. Comme je vous dis, disais juste avant, on regarde les thèmes de courage, compassion, l'amour au mois de février, bien sûr, et la communauté qui va être notre closing, vous savez. C'est là où tout le monde va vraiment se réunir et ce sera une grande célébration de la saison.
Wow! Ça, je me suis dit, mais il va falloir que je me trouve le temps pour aller au moins assister à un de ces...
Absolument. On veut vous voir là, vous,
Grace,
vos amis et votre tout le monde qui nous écoute maintenant, parce que vous savez, on a trouvé que c'est sûr qu'il y a maintenant énormément de choix pour notre audience ici à Montréal. Hein.
Oui.
On a, on a RIDM, on a plusieurs festivals de films, on a plusieurs choses que les gens puissent choisir, mais on a voulu faire quelque chose de très unique. C'est-à-dire que notre festival, si vous voulez, c'est une célébration qui n'a aucune compétition. C'est vraiment pour explorer ces thèmes à travers les travaux qu'on présente avec nos artistes. Alors, il y a des artistes qui ont des expositions, on a des performances, des danseurs, des danseuses, on a des chanteurs, chanteuses connues, émergents, et surtout, on a des films qui sont vraiment l'encre de la soirée.
Oui, moi, ce côté multidisciplinaire, là, ça vient me chercher, quoi. C'est unique, hein. C'est, comme vous le dites, vous mettez en avant des intervenants de prénommée mondiale, aussi locale, et puis des films et des films primés, et puis des expositions et performances d'artistes locaux. Ce mélange de locaux et de l'international est multidisciplinaire. Ça ne peut que faire du bien à tous ceux qui vont se déplacer.
C'est ça qu'on espère. On a vraiment l'envie de partager notre joie, notre optimisme. Pas juste qu'on offre tous ces beaux travaux à travers les artistes, mais on a aussi un cocktail à la fin avec on a créé des cocktails signature, si vous voulez, c'est-à-dire nos propres cocktails.
Oui.
On encourage les gens à s'habiller d'une manière lisse avec des belles couleurs. On veut vraiment que ce soit un party, si vous me comprenez.
Oui, que ce soit de la gaieté, de la joie, du bonheur, et puis pour rencontrer des gens. Bon, on va mettre l'accent sur cette soirée du 9, là, effectivement. Moi, le court-métrage socarisé de Queen of Basketball et le documentaire d'animation Maine fois salué, Flea, cette émouvante allocution du journaliste afghan en exil, auteur militant des droits de l'homme et défenseur des droits de l'homme, des droits LGBTQIA+. J'ai bien
c'est
dit,
ça,
hein.
Exactement. Voilà. Exactement, c'est parfait.
Nemat Sadat, c'est une performance humoristique et audacieuse de l'artiste en danse Mélissa. Comment vous avez pu mettre la main sur ces gens de partout comme ça?
Avec beaucoup de chance, beaucoup de passion. Et vous savez, quand on crée ce genre de programme, on a toujours l'espoir que bon, ben, tout le monde va être aussi excité que nous.
Oui.
Et on a eu, par notre chance, beaucoup d'intérêt, je pense aussi parce que c'est quand même assez, comme on dit en anglais, excusez-moi, mon français est très limité, mais...
Non. Grace, vous vous exprimez très, 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 très bien. Ne vous excusez pas pour votre français quand même.
Merci. Ben, je pense que ça a eu une certaine résonance parce que c'est, comme on dit en anglais, timely.
Mm-hmm.
C'est quoi le mot que je cherche, timely? C'est un moment qui, avec la synchronicité,
oui.
Si vous comprenez.
Oui.
Les gens ont besoin de l'espoir ces jours-ci. Alors, comme vous dites, il y aura Namath Sada qui va venir de Californie, en fait.
Oui.
C'est un écrivain qui a écrit un très, très beau livre qui s'appelle The Carpet Weaver.
Mm-hmm.
Et lui-même, il est parallèle au protagoniste du film The Flea,
oui.
Qu'on va présenter. Lui aussi est un homosexuel afghan qui a échappé son pays, qui a eu des belles
histoires. Oui, l'homosexualité dans ce pays, c'est pas évident. Hein?
Exactement,
oui.
Exactement. Mmh. Ça prend énormément de résilience et de courage. Hein?
Mmh.
Alors, il va venir nous parler directement avec ses histoires, son parcours, si vous voulez. Mais surtout, il va se viser sur la compassion. Pourquoi est-ce que la compassion est importante aujourd'hui?
On vous écoute. Mmh.
Justement. Alors, il va essayer de nous éclaircir un peu là-dessus avec ses idées, ses belles histoires, en fait.
Là, il faut préciser que lui, il sera Namath Sada, il va être le conférencier vedette de la soirée. Hein?
Exactement. Il sera là pour nous parler, mais aussi il va être très ouvert à parler à l'audience. Après, il y aura peut-être un petit cours Q&A, mais aussi pendant les cocktails, si vous voulez.
Wow. Une de vos citations que j'aime beaucoup, très poétique, la deuxième soirée de la série thématique d'Optimista porte sur la compassion. C'est une excellente occasion de comprendre pourquoi la compassion est si essentielle pour mettre fin au racisme systémique et aux préjugés sexistes et sexuels nuisibles. De plus, elle permet de mieux comprendre comment elle peut inspirer une approche plus douce et plus humaine pour tisser de véritables liens, les artistes et les films présentés. Lors de la soirée Compassion, nous entraînerons dans des univers authentiques et émouvants qui nous porteront à réfléchir. Ça, c'est de vous, ça. C'est vous qui le dites.
Oui, voilà. Vous le dites mieux que moi, en fait.
c'est vos mots, ça. C'est beau, ça.
Oui, merci. Vous savez, il y a énormément de patience qui a été mise dans ce projet-là. C'est pas juste pour cette soirée de compassion, mais vous allez voir aussi les autres soirées à venir, comme au mois de février, on aura la belle Madame Joséphine Bacon qui sera
oui.
parmi nous.
Mmh.
Elle va nous partager ses récits qu'elle a coordonnés ou bien, et pas écrit pour nous, mais ça veut dire qu'elle un arrangement spécial pour nous,
oui.
spécifiquement pour nous.
Mmh.
Elle sera accompagnée de Laure Fugère, la grande musicienne, chanteuse qui a été dans Les Misérables, Cats, Cirque du Soleil, etc. Ça, c'est des très grandes personnes ici au Québec. On va présenter à ce moment-là le film « Je m'appelle humain ».
Oui.
Qui est fantastique aussi. Une belle, belle biographie de Madame Bacon.
Oui.
Et finalement, pour la dernière soirée, ce sera « Community », la grosse communauté.
Oui.
Là, c'est vraiment, comme je disais, le party. On va vous présenter le film « Summer of Soul ». Est-ce que c'est un film que vous avez déjà vu?
Lequel?
Summer of Soul.
Non, je ne l'ai pas vu.
Ah bon, ça a gagné énormément de prix.
Mm-hmm.
C'est un film fantastique. C'était du réalisateur, le musicien fameux qui s'appelle Questlove.
Oui.
Si vous le connaissez. Et lui, il a trouvé, avec d'autres personnes, ils ont trouvé video footage d'un concert qui a pris lieu pendant Woodstock, juste nord de Woodstock.
C'était une époque.
Alors,
c'était une époque.
Exactement, exactement. Et ce footage-là a été perdu pour des années et finalement ils l'ont trouvé et ils ont pu faire ce film-là, Summer of Soul. Et c'est, y a énormément d'énergie. Ça nous montre des artistes comme Stevie Wonder pour une de ses premières performances.
Oui.
C'est vraiment un film à voir.
Wow. Ça là, moi je sais que je vais mettre tout ça à mon emploi du temps.
On vous attend là, on vous attend.
Oh oui, je vais mettre ça à mon agenda. Et parlez-nous un peu de Rahem et Ebrahimi.
Alors, Rahem Ebrahimi.
Rahem Ebrahimi, oui.
C'est ça. C'est une jeune artiste iranienne.
Oui.
Qui est venue ici à Montréal, je pense, il y a 7 ans peut-être.
Oui.
Alors, ses ancêtres perses. Elle est une artiste du multimédia, c'est-à-dire qu'elle crée beaucoup d'œuvres qui sont immersives.
Alors, c'est la nouvelle génération, ça.
Exactement.
Oui.
Alors, elle a créé des bobines en céramique, si vous voulez, et vous allez pouvoir jouer avec pendant que vous allez être projeté sur un grand écran.
Oh.
Alors, ça va être vraiment fantastique à voir. C'est quelque chose à voir. Oui. Elle sera là, bien sûr, pour des questions. Alors, si quelqu'un voudrait lui parler aussi.
Oui. Et comment est-ce que vous avez réussi à convaincre Mélissa Julien?
Alors, Mélissa Julien est fantastique. Elle nous a présenté ce projet. Il y a des surprises avec cette performance. Je ne vais pas tout dévouer. Mm-hmm. Mais soit disant que c'est quand même, ça prend énormément de courage pour montrer ce qu'elle va nous présenter sur scène.
Wow.
Ouais. C'est un vrai délice.
Non, les absents vont se mordre les doigts, ils vont se dire « Oh, pourquoi j'ai pas été, c'est fini ». De toute façon, comme je dis, le 19 et puis ensuite l'autre volet qui aura lieu aussi en 2023, les gens, et ça va parler de communauté. Le dernier, le 4 mars 23, la communauté, tout le monde, on vit tous dans une communauté.
C'est ça.
Et les gens ne réalisent pas, on est dans les quartiers, on vit dans des communautés, mais beaucoup de gens pensent qu'ils sont toujours seuls. Ça n'arrive pas à tisser ce lien avec les autres pour se retrouver dans cette communauté-là. Quel est le conseil que vous avez à leur donner?
Ben justement, vous savez, c'est pour ça que ça a été créé de cette façon. On a voulu voir commencer avec courage, parce qu'on a tous besoin d'un peu de courage pour aller un peu plus loin et pour voir les autres qu'on fait part d'une communauté, vous savez.
Oui, oui.
La compassion, c'est comme notre deuxième étape, parce que c'est à travers la compassion qu'on puisse avoir une différente façon de voir les autres,
oui,
encore.
Oui.
Et d'ouvrir nos cœurs à nos voisins, notre société. Et finalement, communauté, vraiment, justement, comme vous dites, nous sommes ensemble dans cette communauté, mm-hmm. avec nos différences et nos parallèles.
Oui.
Et c'est ça qui fait notre richesse. C'est ça qui fait qu'on puisse vivre dans une démocratie avec plein d'amour et se trouver avec quelqu'un peut-être sur l'autobus qui est peut-être différent que nous, mais on a beaucoup de compassion pour cette personne-là.
Oui.
Alors, j'espère que je m'exprime assez bien. Mais
c'est très bien formulé.
C'est ça. Alors, la communauté, finalement, c'est que c'est la façon qu'on puisse voir d'autres personnes, mais se voir soi-même.
Oui.
Vous comprenez? Alors, oui. Quand on se voit soi-même et on fait partie d'une plus grande communauté,
oui.
On n'est jamais seul.
C'est ça.
On ne se sent pas seul. On se sent encouragé avec les autres. Et c'est ça, en fait, qu'on veut voir. Que c'est une célébration de toutes les différences et tout ce qu'on a en commun, comme humain. C'est des histoires
oui,
d'humains.
À moins qu'on ait peur de l'humain, en général. Là, on reste dans son petit coin pour ne pas faire partie de la communauté, quoi.
Oui, ben vous savez, je dis souvent, et je dis ça même à mes enfants, que en anglais, on dit ça « sociability ». Ce serait quoi en français? Pour être sociable,
sociabilité.
Vous savez, c'est ça. C'est un muscle. C'est un muscle qui est comme d'autres muscles qui doit être exercé.
Oui.
Et c'est un muscle qui
doit grandir. Sinon, il s'endort.
Pardon?
Sinon, il s'endort. Le muscle, s'il n'est pas en entraînement, s'il n'est pas travaillé, il s'endort, quoi. Il n'est plus actif. Ouais.
Il devient atrophié, non?
Oui, oui.
Alors, justement, c'est important qu'on a le courage de faire face à nos propres peurs et peut-être même les peurs des autres.
Oui.
Et se trouver en soi-même le courage, comme je dis, et la compassion.
Oui.
Alors, voilà.
OK. Pour ceux qui ne savent pas cet événement du 9 novembre, là, ça va se passer au CAIC 5160, Maison de la Culture de Verdun. Oui, c'est au 5160, bien sûr, boulevard de la Salle à Montréal. Les billets coûtent combien? Les billets d'entrée, c'est pas gratuit tout ça?
Ce n'est pas gratuit, mais c'est quand même très, très abordable. Mmh. Les prix sont, le prix régulier est $15,
ou oui.
Comme étudiant ou personnes âgées, c'est 13,50.
OK. Puis il y a des laissés-passer de saison aussi réguliers, 4 soirées, ou bien laissés-passer de saison étudiants de 65 ans et plus, 4 soirées. Voilà, génial. Alors, je vous dis merci. Très, 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 très belle soirée le 19. Si on ne s'est pas vu le 19, on va se voir la soirée qui suit pour parler d'amour le 11 février. Mais je pense bien que cette soirée du 19 novembre, là, m'interpelle beaucoup. Merci beaucoup, Grace C.B. Byrne. Vous êtes la cofondatrice, hein? Voilà, c'est bien dit.
C'est ça.
Voilà, vous êtes de Yellow Pass Session Adoptee Mista.
Exactement. Et j'ai vraiment hâte à vous rencontrer en personne.
Moi
et
aussi.
Voir tout le monde. Et il y aura un des cocktails qui vous attend.
Merci beaucoup à vous.
Merci à vous. Bonne soirée.
Merci.
Au 19.
Merci. Merci. Au revoir.
Au revoir. Well, I need everybody teaching out there. Omar wrote this. One that makes your toes curl. One to have you up in the morning scrambling eggs, cooking collard greens, neck bones and oxtails. I'm talking about a good man. Listen. Sweet like berries straight off the back.
Merci Mathieu. Voilà, on dit merci à notre invité qui est venu nous parler de compassion, cette deuxième soirée thématique de la série d'Optimista. Grace C.B. Byrne, qui est la cofondatrice et directrice générale de Yellow Pad Session Adoptee Mista. Voilà, ça va être le 19 novembre. Voilà, ça, vous n'oubliez pas, ne ratez pas cette opportunité au quai 5160, Maison de la Culture de Verdun. Voilà, et puis ça continue. Ça va se passer aussi, la programmation, le 19 novembre, oui, et puis quoi encore là, parler d'amour le dimanche, le 11 février 2023, et puis communauté le 4 mars 2023. Oh, je vais revenir là-dessus d'ailleurs. Bon, j'ai reçu un livre que j'avais commencé, qui a été commandé depuis fort longtemps, c'est d'un philosophe, sociologue, prof d'université allemand, Armut Rosa, et ça s'appelle Résonance, une sociologie de la relation au monde, traduit de l'allemand par Sacha Silbert Farm et avec la collaboration de Sarah Raquier. Si l'accélération constitue le problème central de notre temps, c'est-à-dire le fait de courir, quoi, voilà. La résonance peut être une solution. Telle est la thèse du présent ouvrage, bien sûr, lequel assoit les bases d'une sociologie de la vie bonne, voilà, en rompant avec l'idée que seules les ressources matérielles, symboliques ou psychiques suffisent à accéder au bonheur. C'est très important, ça. La résonance accroît notre puissance d'agir et notre aptitude à nous laisser prendre, toucher et transformer par le monde. Soit l'exact inverse d'une relation instrumentale et muette à quoi nous soumet la société moderne. Car en raison de la logique de croissance et d'accélération de la modernité, nous éprouvons de plus en plus rarement des relations de résonance. De l'expérience corporelle, la plus basique aux rapports affectifs et aux conceptions cognitives les plus élaborées. La relation au monde prend des formes très diverses, Oui, la relation avec autrui, la relation avec une idée ou un absolu, la relation avec la matière ou les artefacts. Tout en essayant les tendances à la crise, en analysant les tendances à la crise écologique, démographique, psychologique des sociétés contemporaines, cette théorie de la résonance renouvelle de manière magistrale le cadre d'une théorie critique de la société. C'est une manière de résumer. De temps en temps, je vais venir. Très beau, c'est une brique, hein. C'est une brique de combien de pages là? Je vous le dis, presque 800 pages. Il faut le faire, hein? 719 pages. Je reviendrai là-dessus. Hartmut Rosal, résonance et idée, professeur à l'université de Friedrichshafen, directeur de Max Planck, collègue à Fürth en Allemagne, il est l'auteur aussi de À la découverte d'accélération, d'aliénation et accélération et de Rendre le monde indisponible. C'est son tout dernier, ça. Résonance. Voilà. Restez. On va tout doucement à la fin de l'émission. On va écouter une dernière pièce musicale. Merci à toi, Mathieu. On se retrouve la semaine prochaine.
C'est exact.
C'est exact. Je savais qu'il allait allumer son micro. Merci beaucoup, Mathieu, de cette collaboration. J'ai dit merci à notre chroniqueuse de voyage Maude Carrier, la Globetrotteuse, et merci à Grace Seba Byrne qui est venue nous parler de la compassion, deuxième soirée thématique de la série d'Optimista, c'est bien ça. Et merci à Catherine Bourderon, et merci à nos fidèles auditeurs. Prenez soin de vos minutes, je vous dis, voilà, oui. Mathieu me fait signe, il ne faut pas que j'oublie l'artiste qu'on va écouter là pour terminer la soirée, l'émission en beauté. Eddie G, Baby I'm Ready. Ça a été la pièce. Voilà, et puis prenez soin de vos minutes et on se retrouve vendredi. Voilà. C'est ça. Pour terminer la semaine en beauté. Sur ce, je vous dis ciao.
tired of playing games. So many loves I can't even name, but I'm ready. Ooh. Give you all my love, baby. Baby, not just a little bit. Woo. I wanna give you, I got to give you, I wanna give you more that you don't know.
I'm tired of playing games. Woo.